Vous écoutez, on lit pour vous.
Critiquée, la Ville de Montréal défend son bilan sur le plomb dans l'eau, un texte de Marieke Glorieux-Strickman paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir. L'administration Plante a défendu son bilan sur le plomb de lors d'une assemblée du conseil municipal après n'avoir atteint que 37 % de sa cible de remplacement des entrées d'eau en 2024, un échec total, selon l'opposition. À la lumière de son bilan 2024 de suivi du plan d'action pour éliminer le plomb, déposé devant les élus municipaux, la Ville a fait savoir qu'elle prolongera de 8 ans son échéance des travaux et reverra sa cible annuelle de remplacement d'entrée d'eau qui passera de 5 000 à 4 000. Cet objectif réduit n'a pourtant jamais été atteint. La Ville s'en est approchée en 2021 avec 3 865 remplacements, mais a connu une baisse depuis, atteignant un creux en 2024 avec 1 839 remplacements. On s'entend qu'on est très, très loin de nos cibles, a déploré en entrevue Vanna Nazarian, conseillère de l'opposition à l'Hôtel de Ville et porte-parole en matière des infrastructures de l'eau. De son côté, Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour Projet Montréal et présidente du comité exécutif, a cité les nombreux travaux d'infrastructure à mener à terme conjointement pour expliquer la prolongation de 8 ans. On a construit les rues de notre ville en 300 ans, mais bien sûr qu'on ne va pas les rénover en 10 ans, ni même en 20 ans, s'est exclamée Mme Thuillier à l'Assemblée du conseil municipal. Donc, il y a des priorités et il y a des travaux qui se font pour faire en sorte qu'on puisse garantir de l'eau potable, des égouts et des rues à l'ensemble de la population. Le recensement effectué par la Ville cette année a aussi décelé de nouvelles entrées d'eau en plomb, ce qui fait passer le total de remplacements de 79 000 à 91 600. La Ville mentionne par ailleurs avoir recouru à des outils d'intelligence artificielle pour optimiser les recensements qui ont atteint 120 % de la cible qu'elle s'était donnée. Coût à la hausse. Selon le bilan de la Ville, la baisse du nombre de remplacements en 2024 est liée à une hausse des coûts et au report de certains chantiers. Entre 2018 et 2023, le coût du remplacement d'une entrée d'eau est passé de 6 812 $ à 25 040 $. Ce coût a diminué à 13 463 $ en 2024, ce qui ne s'est pas traduit par une augmentation du nombre d'entrées d'eau remplacées. En 2023, le coût unitaire a explosé. Projet Montréal gère les finances sainement. Clairement, on n'allait pas foncer tête baissée avec des coûts de cette ampleur, a expliqué Mme Thuillier. Mais plus on attend, plus ça nous coûte cher, a fait valoir Mme Nazarian. Selon elle, la baisse représenterait une décision politique plutôt qu'un problème budgétaire. Quand c'est rendu que le cône orange est l'emblème de la ville, je suis sûr que, sous la pression, l'administration a dû faire des choix. Une question de santé publique. En 2019, la Ville a adopté son plan d'action pour éliminer le plomb après la publication d'enquêtes menées par Le Devoir, l'Institut du journalisme d'enquête de l'Université Concordia et Global News sur la sous-évaluation du plomb dans l'eau au Québec. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, 44 % des entrées d'eau en plomb montréalaise ont été remplacées. L'exposition au plomb dans l'eau peut avoir des effets néfastes sur le développement du cerveau des enfants, qui doivent donc l'éviter, tout comme les femmes enceintes. Pour Mme Nazarian, ce dossier devrait recevoir plus d'attention de la part de la Ville. Quand c'est une question de santé publique, il y a quand même un sentiment d'urgence qui devrait venir avec ça, qui malheureusement n'est pas au rendez-vous. Mme Thuillier a souligné l'enjeu de l'acceptabilité sociale et la complexité des travaux de changement d'entrée d'eau, surtout pour les rues qui doivent être complètement fermées pour ne changer que 2 ou 3 entrées d'eau. Ça se peut que ces rues-là soient rénovées en 2040, la date limite, a-t-elle expliqué. Et c'est rigoureux comme façon de fonctionner, parce qu'on travaille pour l'ensemble de la population. C'était « Critiquer, la ville de Montréal défend son bilan sur le plomb dans l'eau », un texte de Marieke Glorieux-Strickman paru le 16 juin 2025 dans Le Devoir.
Comment prévenir les crampes musculaires? Un texte de Catherine Enfield, paru le 20 juillet 2025 dans la presse. J'ai 58 ans et je fais du vélo. Ces dernières années, la durée et la fréquence des crampes musculaires ne font qu'augmenter, ce qui me force à abandonner des sorties de groupe. J'ai essayé des recettes trouvées sur le web, comme du vinaigre de cornichon, sans résultat. Est-ce possible de se débarrasser des crampes musculaires? M. Benchikroun. Les crampes musculaires associées à l'exercice sont des crampes douloureuses et involontaires des muscles squelettiques, comme le mollet et la cuisse, et elles surviennent pendant l'exercice ou alors juste après. Le traitement le plus reconnu est aussi le plus simple, l'étirement statique. On étire doucement le muscle jusqu'à ce que la crampe s'atténue. Quand la crampe est légère, il est parfois possible de reprendre la séance d'exercice. Mais parfois, les gens doivent arrêter l'activité et se reposer pour interrompre le cycle douleur-spasme. Mais est-ce possible de les prévenir, ces crampes, ou de les traiter de façon durable? Peu de chercheurs s'intéressent à la prévention et au traitement des crampes musculaires associées à l'exercice, mais la presse a joint aux États-Unis l'un des plus actifs dans le domaine, Kevin C. Miller, professeur au département de santé et de performance humaine à l'Université d'État du Texas. D'emblée, le professeur Miller donne un avertissement. Lorsqu'on souffre de crampes musculaires, il faut d'abord s'assurer qu'elles ne sont pas le symptôme d'un problème de santé sous-jacent comme le diabète, l'hypothyroïdie ou la maladie de Machado-Joseph, ou l'effet secondaire d'un supplément ou d'une médication, comme des médicaments bronchodilatateurs. Pour les gens en santé, maintenant, ne suffit-il pas de s'hydrater davantage avec des boissons riches en sels minéraux et donc en électrolytes? Ce conseil universel découle d'une théorie bien connue pour expliquer les crampes musculaires, celle de la déshydratation et du déséquilibre électrolytique. Cette théorie a longtemps été dominante, mais plusieurs scientifiques la remettent en question. C'est le cas de Kevin Miller, qui pointe d'abord une faille dans sa logique. Il n'y a aucun lien, dit-il, entre cette cause présumée des crampes, déshydratation et manque d'électrolytes, et le traitement qui fonctionne le mieux, l'étirement statique. Combien ajoute-t-on de fluide dans son corps quand on s'étire? Aucun. Et combien d'électrolytes? Aucun, résume-t-il. Des recherches, dont celle de Kevin Miller, ont également montré ceci, qu'ils soient sujets aux crampes ou non, les athlètes perdent des quantités similaires de liquide et d'électrolytes, sodium, potassium, calcium, etc., pendant l'exercice. Et lorsqu'on déshydrate des personnes en laboratoire, elles ne deviennent pas plus enclines aux crampes provoquées électriquement. L'impact du système nerveux. Au tournant des années 2000, le chercheur sud-africain Martin Schwellnus a proposé une autre théorie, aujourd'hui appuyée par plusieurs données. Ces crampes seraient plutôt dues à l'effet de la fatigue sur le système nerveux. Il existe un déséquilibre entre les nerfs qui commandent l'excitation musculaire et ceux qui commandent la relaxation musculaire, vulgarise Kevin Miller. On peut comparer cela à une bascule. Lorsque nous sommes fatigués, l'excitation est plus importante que la relaxation. Le système nerveux deviendrait donc surexcité, et c'est ce qui provoquerait ces contractions douloureuses et involontaires. Encore là, qu'est-ce qui explique que plusieurs personnes se fatiguent sans pour autant souffrir de crampes? Inspiré par la théorie de son collègue, Kevin Miller a proposé une nouvelle théorie appelée « théorie multifactorielle ». Elle repose sur deux éléments. Premièrement, plusieurs facteurs peuvent contribuer aux crampes, et ceci varie d'une personne à l'autre. Et deuxièmement, chaque personne a un seuil différent. Selon la théorie de Kevin Miller, des causes peuvent donc s'accumuler et faire en sorte qu'une personne atteint son fameux seuil personnel, l'intensité de l'effort, la qualité du sommeil, le manque de glucides, une blessure récente, du stress, un temps chaud et humide. Le manque d'eau et d'électrolytes pourrait aussi jouer un rôle, mais cet élément n'est pas suffisant à lui seul pour déclencher une crampe. Kevin Miller l'a testé dans ses expériences. Certaines personnes auraient aussi une prédisposition génétique. Bref, c'est complexe, résume Kevin Miller. Son conseil aux gens qui en souffrent? En parler à un professionnel de la santé, d'abord pour exclure les causes médicales sous-jacentes, puis essayer de comprendre dans quel contexte leurs crampes surviennent. Le chercheur propose une série de 16 questions à remplir chaque fois qu'on en a une. Il faut traiter ça comme une vraie blessure, dit-il, et trouver la recette de ces crampes. Votre recette à vous pourrait être différente de la mienne. C'est pourquoi, dans la littérature, on trouve tant de traitements anecdotiques qui peuvent effectivement fonctionner pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Et le jus de cornichon? Quelle est cette histoire de jus de cornichon pour traiter les crampes? Le professeur Miller l'a testé dans une expérience et, effectivement, les participants du groupe Jus de cornichon ont vu leurs crampes disparaître après 90 secondes en moyenne, soit 40% plus rapidement que les participants qui prenaient de l'eau déminéralisée ou alors rien du tout. En 90 secondes, le jus de cornichon n'a pourtant pas le temps d'être digéré. Selon l'hypothèse de Kevin Miller, c'est peut-être, encore là, une affaire neurologique. Si votre corps est dans une spirale douleur-crampe, quand vous buvez du vinaigre, ça donne quelque chose d'autre à votre cerveau, résume-t-il. Le jus de cornichon n'est toutefois pas une panacée. Non seulement il est hyper salé, mais il demeure également moins efficace que l'étirement. Pour ce qui est de la prévention des crampes, ni le jus de cornichon ni les étirements ne sont efficaces selon les expériences du professeur Miller. C'était « Comment prévenir les crampes musculaires », un texte de Catherine Anfield, paru le 20 juillet 2025 dans la presse.
SANB, Immigration et francophonie font débat lors de l'Assemblée générale annuelle. Un texte de Damien Dauphin, paru le 3 juillet 2025 dans le Moniteur acadien. Jean-Marie Nadeau a constaté que des immigrants, majoritairement originaires de l'Inde, qui s'installent au sud-est et dans le comté de Kent, ne peuvent offrir le service en français dans les commerces où ils travaillent. Samedi 21 juin, lors de l'Assemblée générale annuelle de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, SANB, dont il fut jadis le président, il a présenté une proposition de résolution qui a été longuement débattue. Il souhaite également que le portrait linguistique des municipalités du Nouveau-Brunswick soit défini par la loi. Le chroniqueur sociopolitique du Moniteur acadien s'inquiète des menaces que fait peser une immigration non francophone sur le portrait linguistique traditionnel des municipalités acadiennes. Il a proposé que des cours de français gratuits et obligatoires soient offerts aux nouveaux arrivants unilingues anglophones, de même que des cours sur l'histoire acadienne. Je veux que ces gens se sentent réellement bienvenus chez nous et intégrés, a-t-il justifié. Mais il faut qu'on leur donne les moyens de s'intégrer. Tel est le sens de ma proposition. L'important, c'est d'alerter et d'essayer d'identifier un moyen de pérennisation du peuple acadien. Président du conseil d'administration du Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants au Nouveau-Brunswick, CAFI, Marcel Gauguin a signalé que pour qui veut prendre des cours de langue, les listes d'attente sont très longues. Il ne croit pas que la SANB ait elle-même les fonds nécessaires pour financer des cours gratuits. En outre, selon ses calculs, les immigrants concernés devraient y consacrer 1 à 1500 heures réparties sur 2 ans. Il existe des programmes provinciaux. Éducation postsecondaire, formation et travail offrent des cours qu'on appelle des formations en compétences essentielles au travail. La langue peut être une compétence essentielle. Je pense qu'il faut encourager les employeurs qui embauchent ces gens-là à leur offrir peut-être quelques heures par semaine, a-t-il suggéré. Représentante de la région sud-est au sein du conseil d'administration de la SANB, Alexandra Le Breton a demandé que soit retirée la mention obligatoire dans l'énoncé de la résolution. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un qui parle déjà une des 2 langues officielles, par exemple l'anglais, à prendre des cours, puis investir, comme M. Gauguin vient de le dire, 1500 heures et plus là-dedans, s'est-elle interrogée. Des voleurs de job. Présidente de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Philomène Zandjio, a quitté le Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, pour s'établir au Canada il y a une 30aine d'années. En devenant canadienne, elle a perdu ipso facto sa nationalité congolaise car son pays natal ne reconnaît pas la binationalité. Son parcours fut semé d'embûches. Madame Zandjio, qui se définit comme allophone, a fait le choix de vivre en français, mais au moment de son arrivée, les immigrants francophones étaient dirigés chez MAGMA, association multiculturelle du Grand Moncton, où tout se passe en anglais. En outre, elle signale que les personnes d'ascendance africaine n'étaient pas forcément les bienvenues auprès des Acadiens. Nous étions des voleurs de job. Nous n'étions pas acceptés et lors des assemblées, je pense que nous n'avions même pas de place comme immigrants francophones. Philomène Zandjio se félicite que la situation ait changé, mais s'est dite préoccupée par la proposition dans la mesure où beaucoup de nouveaux arrivants viennent de pays où l'anglais et le français ne sont pas les premières langues officielles. Elle y voit un possible dérapage et une atteinte au multiculturalisme. Si cette proposition passait aujourd'hui, allez-vous la faire seulement pour les immigrants ou allez-vous la faire aussi pour les Acadiens qui ne parlent pas le français? Pourquoi cette proposition va être attachée à l'immigrant? Nous avons une langue à protéger, mais je pense que nous pouvons la protéger d'une autre façon, a-t-elle exprimé avec passion. Enseigner l'anglais plutôt que le français aux nouveaux arrivants. Jeanne d'Arc Gaudet a suggéré que des cours soient offerts pendant la saison hivernale aux travailleurs saisonniers qui sont alors sur l'assurance-emploi. J'ai eu la chance de discuter avec ces personnes-là de façon régulière, a fait valoir l'ancienne présidente de la SANB, et elles aimeraient pouvoir communiquer aussi en français. Je crois qu'il faut agir et vraiment réfléchir à cette question-là. Le président du CAFI a ensuite repris la parole pour émettre une suggestion qui peut sembler a priori paradoxale. Il a déclaré que les immigrants du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne qui ont le français comme langue seconde devraient plutôt se voir offrir des cours dans la langue de Shakespeare. S'ils ont de la difficulté, surtout dans le sud-est, à trouver de l'emploi ou à se faire embaucher par un employeur, il faut qu'ils apprennent l'anglais. Un peu plus tôt, Jean-Marie Nadeau avait présenté une première résolution afin que la SANB milite pour l'adoption d'une loi omnibus qui définisse le caractère linguistique de chacune des 77 municipalités ainsi que celui des 12 districts ruraux de la province. Selon cette optique, les communautés visées pourraient être soit acadiennes et francophones, soit anglophones, soit bilingues. Dans l'ensemble, ce sont les plus jeunes membres de la SANB qui en ont critiqué la pertinence. In fine, la proposition a été reportée sine die dans l'attente de recueillir davantage d'informations sur le sujet. C'était SANB, Immigration et francophonie font débat lors de l'Assemblée générale annuelle. Un texte de Damien Dauphin paru le 3 juillet 2025 dans le Moniteur acadien.
L'utilisation du vélo explose à Québec. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 8 juillet 2025 dans la presse. Même si Québec reste à des lieues de Montréal à ce chapitre, l'utilisation du vélo connaît une croissance soutenue dans la capitale, alimentée par des investissements majeurs de la ville et le développement du réseau à vélo. Les chiffres de la dernière enquête Origine-Destination OD, dévoilée fin juin 2025, sont sans équivoque. Seul le vélo a connu une hausse parmi les grands modes de déplacement. Les déplacements en voiture, moins 7,1%, et en transport en commun, moins 7%, ont tous deux baissé dans la région de Québec-Lévis entre 2017 et 2023, résultat de la popularité du télétravail. La marche aussi a perdu des plumes, moins 7,5%. Le vélo, lui, poursuit sa lancée. Les déplacements à coups de pédale ont grimpé de 43,6% en 6 ans. Depuis l'enquête de 2011, les enquêtes origine-destination ont lieu tous les 6 ans. Les déplacements à vélo dans la région Québec-Lévis ont plus que doublé, passant de 17 000 par jour à 36 900. Ce sont d'excellents chiffres, mais il faut rappeler que ce sont des chiffres de 2023. Je pense qu'ils ont encore beaucoup augmenté depuis, relève Pierre-Luc Lachance, responsable du dossier du transport, au comité exécutif de la Ville de Québec. En 2023, on avait 74 stations à vélo et 780 vélos en libre-service. Cette année, on est rendu à 165 stations et 1800 vélos, note l'élu. L'enquête OD n'explique pas ce phénomène. Mais l'administration du maire Bruno Marchand avance deux pistes pour l'expliquer. La croissance de l'offre d'à vélo et la multiplication des pistes cyclables à Québec, et notamment les corridors Vivacité semblables au réseau express vélo montréalais. C'est la preuve que ça a fonctionné. C'est le début de la montée de la courbe. On voit la courbe monter et on voit que ça s'accélère, remarque M. Lachance. On l'a tout le temps dit, pour faire la lutte à la congestion, ça prend un cocktail, et pour favoriser la mobilité active, ça prend des aménagements sécuritaires et conviviaux. Le bras droit de Bruno Marchand avait aussi servi dans l'administration de Régis Labeaume. Il a été aux premières loges pour constater la croissance des investissements. Il explique qu'en 2018, 400 000 $ avaient été réservés pour le vélo dans le budget municipal. Le plan quinquennal de l'administration Labeaume prévoyait 12,7 millions en 2025. C'est finalement 23,5 millions qui seront dépensés pour la mobilité active, vélo et marche, cette année. On était à 400 000 $ en 2018. On est dans une autre game aujourd'hui. À 400 000 $, on faisait du lignage. Encore du chemin à faire. Malgré sa croissance importante, la part modale du vélo reste toutefois très faible à Québec. Seulement 1,8 % des déplacements quotidiens se font à vélo dans la région Québec-Lévis. C'est tout de même le double d'il y a 12 ans. En guise de comparaison, l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, estime que 4,1 % des travailleurs utilisent le vélo dans la grande région de Montréal. Mais à Montréal comme à Québec, l'utilisation du vélo est beaucoup plus importante dans les quartiers centraux. À Québec, par exemple, l'enquête OD 2023 s'intéresse à un territoire qui va de Neuville à Saint-Tite-des-Caps, regroupant l'île d'Orléans, Lévis et plusieurs municipalités des couronnes nord et sud. Parmi les 38 000 déplacements à vélo quotidiens répertoriés sur le territoire Québec-Lévis, 87 % ont eu lieu dans l'agglomération de Québec. À la dernière enquête, on avait calculé dans certaines zones de Québec autour de 5 % de part modale pour le vélo. On va refaire l'analyse quand on aura les chiffres bruts, mais on espère être entre 5 et 10 % dans ces secteurs pour cette enquête, indique le président de la table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec, Pierre Barrière-Jean. Celui-ci avance que l'enquête OD, chapeautée par le ministère des Transports, aurait tendance à sous-estimer l'utilisation du vélo. Il faut rappeler que l'enquête se fait du 4 septembre au 15 décembre. À la mi-décembre, beaucoup de cyclistes ont déjà remisé leur vélo, fait valoir M. Barrière-Jean. Il s'attend à une croissance encore plus rapide du vélo dans les prochaines années, au fur et à mesure que les nouvelles pistes cyclables annoncées par l'administration Marchand seront construites. Évidemment, on verra après les prochaines élections. Mais si ça se poursuit, je m'attends à une progression encore plus rapide. Pierre-Luc Lachance assure que le vélo est en voie de connaître un développement semblable à celui qui s'est vu à Montréal dans la dernière décennie. On a juste commencé les investissements plus tard. On a parti notre courbe 10 ans après celle de Montréal, indique l'élu. C'est aussi simple que ça. C'était « L'utilisation du vélo explose à Québec », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 8 juillet 2025 dans La Presse.